le secteur des télécoms est un des secteurs qui n'a pas souffert de cette période du confinement. C'est l'avenir, la 5G. Et donc, Nokia, il faut que l'État dise, pas question de supprimer les emplois, il faut garder ces emplois en France, parce que c'est le retour des licenciements boursiers.
Les licenciements boursiers dénoncés par le patron de la CGT, ça faisait quelques mois quand même qu'on n'avait pas entendu l'expression. C'est bien le signe que cette semaine, la tension est montée d'un cran. Lundi, on a donc eu l'annonce d'un millier de postes supprimés chez Nokia et hier, chez Sanofi, encore un autre millier d'emplois qui vont disparaître. Le point commun entre Nokia et Sanofi, c'est que c'est vrai, le virus n'y est pour rien. L'industrie des télécoms n'a pas particulièrement souffert du confinement, et alors un labo pharmaceutique, tout au contraire. Sanofi a même vendu encore plus de Doliprane. Mais attendez, il y a 10 jours à peine, est-ce que ça n'était pas justement le patron de Sanofi qui annonçait en grande pompe une nouvelle usine, 200 emplois créés en France, aux côtés d'Emmanuel Macron qui lui promettait 200 millions d'euros pour accompagner les labos qui travaillent sur un vaccin ? On aurait quand même pu se passer de cette séquence qui aujourd'hui laisse un goût amer. Mais alors, faut-il conclure à l'impuissance de l'État ? Eh bien non. Plan de soutien, chômage partiel, maintenant activité partielle de longue durée, puis à la rentrée on aura le plan de relance. L'État a déployé ses amortisseurs, va continuer à les déployer. Sans eux, le tsunami de licenciements aurait déjà eu lieu dans le tourisme, dans l'aéronautique. Des entreprises, elles, vraiment touchées par la pandémie.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
C'est le Mag Éco, nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Oui, retour au format normal, mais on garde les mêmes et on continue. Coy Nguyen, le réalisateur, Valentin Pérez, l'attaché de production, et ce matin, Guillaume Roux à la technique. Elle est là aussi, on la garde, c'est Sandrine Foulon, ma vie au boulot. Bonjour Sandrine.
Bonjour Alexandra.
Alors, la question des auditeurs, ça sera juste avant 10h, mais tout de suite, la spécialiste du monde du travail, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce que les amortisseurs de l'État vont nous permettre d'éviter le tsunami ? Qu'est-ce qu'ils disent les économistes là-dessus ?
Bon, alors on espère qu'ils vont arrêter le tsunami. L'ampleur du choc, on ne le connaît pas. La Grand Est, ça va être la rentrée, ça va être septembre. Certains économistes nous parlent de 12% de chômage. On n'a jamais été jusque-là. C'est énorme. Ouais. Et on sait qu'on va avoir un choc. On ne sait pas exactement dans quel secteur et comment ça va se produire. Ensuite, il y a tous les outils, et je pense que là, le gouvernement a raison de mettre en place toute une série d'amortisseurs. Vous avez parlé du chômage partiel. Certaines entreprises vont peut-être être exonérées de cotisations sociales quand elles recruteront un jeune de moins de 30 ans.
Ah, ça, on en parlera.
Ouais, et on peut dire que c'est quand même le moment.
Allez, ça sera juste avant 10h, les détails là pour les jeunes. Ce samedi, dans le Mag Éco, on va aussi parler du Made in France et puis d'éventuelles relocalisations avec un industriel. Si je vous dis que c'est le roi de la cocotte minute, et là il se lance dans la fabrication de vélos, le PDG de Seb, Thierry de la Tour d'Arthez, sera avec nous vers 9h45 pour nous expliquer sa vision et sa démarche. Mais avant cela, on va planter le décor avec les débatteurs, bien sûr, ils sont là. Christian Chavagneux d'Alternatives Économiques, bonjour Christian.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous. J'espère que le vélo ne marchera pas avec la cocotte minute.
Emmanuel Lechypre, c'est un vélo électrique, de BFM Business.
Bonjour à tous.
Bonjour à vous. Alors, je vous pose la question, est-ce que le virus va tuer la mondialisation ?
Aujourd'hui, on voit avec cette crise,
Aurélie Trouvé,
à quel point les circuits ont été mondialisés, à quel point on est dépendant d'un certain nombre d'exports et d'imports.
Porte-parole d'attaque.
Et il y a besoin aujourd'hui, effectivement, d'une relocalisation des activités, que ce soit dans l'agriculture, dans l'industrie ou les services. Et là, effectivement, ça va demander une régulation publique forte.
En fait, au début de cette pandémie,
Nicolas Bouzou,
on a beaucoup entendu l'idée selon laquelle cette pandémie, elle était liée à la mondialisation.
Économiste.
Je pense qu'on a tous envie d'avoir comme ça intuitivement un monde plus local. Je comprends bien l'intérêt que peut susciter une telle idée, puis en plus elle peut sembler avantageuse économiquement. Simplement, je me méfie de l'idée de localisme. Je m'en méfie économiquement et je m'en méfie philosophiquement.
Certainement, il y a un rapport entre cette pandémie et la mondialisation.
Esther Duflo,
en ce qui concerne le déplacement des individus.
Prix Nobel d'économie.
Le commerce international, c'est pas clair, mais le commerce international, il a bon dos, le pauvre. Là, en l'occurrence, c'est surtout le déplacement des gens, le tourisme, etc. Oui, c'est vrai, c'est clair que si on restait tous chez soi, il n'y aurait pas de pandémie. J'espère qu'on ne va pas revenir après cette crise à se dire « Ah, maintenant, il faut fermer toutes les frontières, empêcher les gens de venir faire du tourisme chez nous, etc. »
C'est une erreur que de penser que cette crise annonce la fin de la mondialisation.
Thierry Breton.
On va redistribuer autrement nos sources d'approvisionnement.
Commissaire européen au marché intérieur.
on va les multiplier, on va donc, ce faisant, les sécuriser. Certaines productions, on peut penser par exemple à des médicaments spécifiques, des souches antibiotiques par exemple, vont certainement être relocalisées, en partie, pas totalement. Et évidemment, il y aura un coût, mais ce coût, c'est un coût qui est différencié par rapport à la fabrication plutôt qu'à la fermeture.
La crise de 2008 a été un premier catalyseur
Thomas Piketty.
Du fait que la mondialisation financière sans régulation avait été trop loin.
Économiste.
Et cette crise épidémique de 2020, même si elle est d'une toute autre nature, je pense va constituer un peu une nouvelle étape dans une remise en question d'une certaine forme de mondialisation marchande, libérale, et d'une prise de conscience dans le besoin de développer un modèle de développement qui soit plus équitable et plus durable.
Le virus, alors, il a donné un coup d'arrêt à la mondialisation. Est-ce qu'il annonce la fin de la mondialisation? C'est la question de notre débat ce samedi 27 juin. Emmanuel Lechypre, d'habitude, on fait une photo. Faites-nous une photo de la mondialisation aujourd'hui.
Ce qu'on voit, c'est que sur ce plan-là, comme sur beaucoup d'autres, en fait, cette crise sanitaire, elle ne modifie pas le monde d'après. Elle précipite juste un monde d'après qui n'est pas très différent de celui qu'on anticipait avant. Et c'est typiquement le cas sur la mondialisation. Il y avait une tendance déjà, non pas alors à la démondialisation, mais une tendance à la désinternationalisation des processus de production. Et elle vient de loin, elle est très nette. Prenez par exemple, moi il y a un indicateur que j'aime bien, c'est l'université de Cranfield aux États-Unis qui recense dans la littérature scientifique économique le nombre de fois où il y a des articles sur la relocalisation. Et ben entre 1982 et 2001, vous en aviez zéro. Entre 2001 et 2004, vous en aviez à peu près 50 par an. Après 2006-2010, 250 par an. Et après 2015, on passe de 250 à 2000 par an. Donc vous voyez que l'engouement, cette question de la relocalisation, elle se pose depuis bien plus longtemps. Si vous regardez, par exemple, ça c'est l'OCDE qui donne ces chiffres, les industries qui subissent l'impact d'un changement de stratégie d'approvisionnement. C'est-à-dire des pays, des entreprises qui passent de pays à bas coût de main-d'œuvre et qui reviennent dans des pays où le coût de main-d'œuvre est élevé. Vous aviez 9% des entreprises qui y pensaient en 2009, vous en avez plus de 25% aujourd'hui. Donc cette idée de relocaliser, elle n'est pas nouvelle. Elle n'est pas nouvelle. Alors pourquoi? D'abord parce qu'on a vu que la réduction des écarts de coût de production entre les pays comme la Chine et l'Europe et les États-Unis avait beaucoup diminué.
Vous allez trop vite, ça veut dire que parce que les salaires chinois ont beaucoup augmenté.
Au début des années 2000, le salaire chinois, c'était 40 fois moins que le salaire français. Maintenant, c'est environ la moitié. Donc, il y a quand même, en moyenne, des écarts considérables qui se sont réduits. Ensuite, il y a beaucoup d'entreprises qui ont fantasmé la délocalisation et ses avantages et qui se rendent compte qu'aujourd'hui, les coûts logistiques, par exemple, de la délocalisation, c'est extrêmement élevé. Et puis, cette volonté de se protéger des chocs d'approvisionnement, qui est vraiment l'argument majeur aujourd'hui. Mais on l'avait déjà vu. Rappelez-vous, au moment de Fukushima, quand il y a eu une usine de pièces pour l'industrie automobile qui a paralysé les usines automobiles du monde entier. Quand vous avez eu en 2011 des inondations en Thaïlande, qui ont paralysé des usines de microprocesseurs, qui ont empêché de fabriquer des ordinateurs dans le monde entier. Il y avait déjà cette conscience-là. Rajoutez à ça la révolution technologique qui fait qu'on produit plus maintenant des très grosses quantités, mais des quantités de plus en plus personnalisées et qu'il faut répondre aux besoins des consommateurs de façon de plus en plus rapide. Bref, le retour de la valeur proximité, il n'est pas récent et il est juste précipité, accéléré par cette crise de coronavirus.
Christian Chavagneux, est-ce que vous avez la même vision? Est-ce que le virus est juste en train d'accélérer un processus qu'on voyait déjà?
Oui, même constat. On était déjà, moi j'irai un peu plus loin qu'Emmanuel, pas simplement dans une désinternationalisation, mais une démondialisation. C'est les firmes multinationales, quand on parle du secteur productif, qui organisent ces fameuses chaînes de valeur ajoutée mondiale, c'est-à-dire j'essaye d'aller produire chaque petite partie de mon produit là où c'est le moins cher, un petit peu partout dans le monde. Et ça, c'est nettement en recul. Moi j'ai deux autres indicateurs qui montrent que c'est pas seulement académique, c'est vraiment dans les stratégies des firmes multinationales. La Chine, il y a 15 ans, 30% des importations, elle leur remettait dans des exportations. C'est-à-dire que vous aviez un tiers du commerce international chinois qui était pour dire, j'importe des produits, je les retransforme, je les assemble plutôt, et je les réexporte. Aujourd'hui, c'est 13%. Donc, l'un des grands facteurs de ce qu'on a appelé la mondialisation économique des 30 dernières années, c'est en fait l'arrivée de la Chine dans le commerce international et dans les stratégies des firmes. La Chine est en train de se relocaliser, de se refermer sur son propre marché. Donc vous avez un des piliers clés de la mondialisation qui est en train de se démondialiser. Et puis l'autre argument important, c'est la Banque mondiale. Je crois que c'est la seule institution qui fait un super calcul, qui prend des tonnes et des tonnes d'heures à faire, mais que la banque fait. Et c'est que ça consiste à faire quoi ? À mesurer pour chaque entreprise internationale sa contribution à la mondialisation. Est-ce qu'elle s'organise de plus en plus de manière mondiale ou de moins en moins ? Et vous regardez les stats du dernier rapport qui est sorti l'année dernière de la Banque mondiale, vous dites 2000-2007, dans tous les secteurs, c'est en hausse. Il y a de plus en plus de mondialisation. Prenez la technologie, la haute technologie, la basse technologie, l'agriculture, les transports, tout ce que vous voulez. Que les entreprises soient fournisseuses ou qu'elles soient clientes. En plus, la Banque mondiale fait la distinction entre les deux. Vous prenez 2007-2017, tout est en baisse pratiquement. Il y a un recul de la mondialisation, donc avant le virus, et que le virus ne pourra faire qu'accentuer. Il y a vraiment, du côté de la stratégie des multinationales, un recul par rapport à ce que l'économiste Daniel Roderick a appelé l'hypermondialisation des années 90-2000.
Emmanuel.
Non, moi où j'ai des réticences par rapport au terme de démondialisation ou de mondialisation, c'est que la mondialisation, c'est bien plus que du commerce. Hein, la mondialisation, c'est de la culture, c'est du tourisme, c'est de la finance, etc. C'est pour ça que je préfère, moi, parler de désinternationalisation des processus de production. Alors effectivement, quand on regarde,
on peut parler finance, hein, parce que ça démondialise aussi.
Bah non, moi justement, enfin je trouve que ça démondialise pas beaucoup sur la finance. Quand vous regardez, et c'est ça d'ailleurs le sujet, c'est que globalement on a une mondialisation financière qui est beaucoup plus poussée aujourd'hui. Si vous regardez par exemple tout ce qui est évolution des dettes et des actifs extérieurs globaux, qui montre l'imbrication un petit peu financière mondiale. Si vous prenez l'Europe, on est à 225% du PIB aujourd'hui, on était qu'à 50 en 1996. Si vous prenez la taille des flux internationaux de capitaux, on est aussi beaucoup plus grand. Si on prenait le niveau de corrélation entre l'évolution des différents marchés financiers, c'est ça aussi qui est plus important.
Sans recul.
Et donc, moi je suis pas d'accord avec ça. Il y a quelques indicateurs qui montrent que effectivement il y a un peu de recul, mais globalement non. Et ce qu'on voit, c'est quand même cette globalisation financière qui a continué à progresser, cette globalisation commerciale qui, elle, tend à se ralentir, hein, puisque même le commerce mondial, et encore une fois, pas depuis 2 ans ou 3 ans, depuis la crise de 2009-2010, ouais, le commerce mondial progresse quand même 2 fois moins vite que dans les années 2000. Et donc c'est bien structurel. Et ce qu'il y a, c'est que ça, il faut pas sous-estimer le fait qu'on ait de plus en plus de globalisation financière et un peu moins de globalisation réelle, parce que ça veut dire par exemple que les interactions économiques, ça veut dire que les chocs économiques, ils se transmettent de moins en moins par l'économie réelle, mais de plus en plus par la finance. Et ouais, ça veut dire qu'on est peut-être moins dépendant du reste du monde, on va peut-être vers moins de dépendance du reste du monde.
C'est pas vraiment ce qu'on a vécu,
sur
Emmanuel,
le commerce.
Pendant cette
épidémie.
Revanche,
on va vers de plus en plus de dépendance sur le plan financier. Faut
surveiller. Non, je suis pas tout à fait d'accord.
Alors, allez-y.
Déjà, le commerce international, hein, les 2/3, c'est le commerce intra-firmes, quoi. C'est les relations entre les mêmes filiales d'une multinationale. Donc, s'il y a de moins en moins de mondialisation au sein des firmes, il y aura de moins en moins de commerce mondial. Le commerce, c'est juste la résultante des stratégies des firmes. Donc, à partir du moment où on fait le constat que la stratégie des firmes est plutôt en recul sur l'internationalisation et la mondialisation, il y aura moins de commerce. Ça, c'est normal. Sur la finance, je suis pas tout à fait d'accord. Pourquoi? Évidemment, Emmanuel compare 96 à maintenant. Il y a eu une explosion de la finance depuis 96, donc, mais c'est pas 96 à maintenant qu'il faut comparer, c'est 2008-2009 à maintenant. Et là, la finance, en fait, quand on parle de la finance internationale, la finance sert d'abord les intérêts de la finance. La mondialisation financière.
Oui, qu'est-ce que vous appelez la mondialisation financière? Est-ce que ce sont ces flux d'argent qui vont s'investir dans des pays? Est-ce que ce sont les investissements directs étrangers?
Quand on parle de mondialisation financière, on parle effectivement les investissements, les capitaux qui bougent d'une entreprise qui est dans un pays et qui va investir dans un autre pays, ce que vous venez d'appeler les investissements directs à l'étranger des multinationales, mais c'est aussi les placements internationaux, mais c'est aussi les relations entre les banques, les relations entre les banques et les fonds d'investissement. Et quand vous regardez la structure de cette mondialisation financière, les investissements directs, c'est tout petit en fait. Les placements, c'est un peu plus gros. Et les relations entre les acteurs financiers, c'est ça l'essentiel de la finance. Et donc là où je suis pas d'accord avec Emmanuel, c'est que quand vous regardez les relations entre les acteurs de la finance au niveau mondial, c'est en chute libre. En chute libre. Entre 2008 et 2019, les dépôts et les prêts internationaux des banques avec d'autres banques situées à l'étranger, ça a diminué d'1/3. Le grand marché international, ce qu'on appelle les produits dérivé, ces produits ultra spéculatifs, opaques, qui sont dans toutes les crises financières depuis que le monde existe, ça a reculé des deux tiers depuis 2008. Moi, je pense qu'il y a un vrai recul de la mondialisation financière. Autre exemple, les dettes publiques. On a des déficits budgétaires, on a plus de dettes. Est-ce qu'on le fait financer par les gens à l'intérieur du pays ou par des non-résidents? Le plus gros marché du monde de la dette, c'est le marché américain. En 2008, la moitié s'était financée par des étrangers. Aujourd'hui, c'est 40%. Un des autres gros marchés mondiaux de la dette, c'est nous. C'est la France, on emprunte beaucoup. En 2008, 70% de notre dette était financée par des étrangers. Aujourd'hui, c'est 54%. Il y a un recul de la mondialisation financière.
Donc, vous n'êtes pas d'accord. Vous êtes d'accord tous les deux pour dire que le commerce international recule, qu'il y a une réorganisation de ce commerce. En revanche, sur le niveau de recul de la mondialisation financière, des échanges financiers, là, vous n'êtes pas d'accord. Mais la question... Donc là, vous nous faites quand même une photo qui montre une évolution... Ça profite à qui? Enfin, vous voyez, il y a toujours des gagnants et des perdants quand on redistribue les cartes, Emmanuel Le Chypre. Est-ce que, par exemple, nous, Français, on peut se dire, c'est une bonne chose, c'est une mauvaise... Est-ce qu'on peut avoir un jugement
alors,
là-dessus?
Il faut rappeler que si on a autant mondialisé et si on a autant éclaté les processus de production, comme l'a dit Christian...
Ça veut dire qu'on allait chercher le boulot en Chine, qu'on allait chercher au Vietnam la vis.
Aujourd'hui, oui. Il faut bien rappeler que quand vous êtes aujourd'hui face à un produit industriel, il a beau être il y a toujours 40% de made in ailleurs dans ce produit. On a des produits qui sont made in monde, en fait, maintenant, qui sont vraiment... voilà, quand on a poussé tout ça. Et c'est ça, aujourd'hui, qui est remis en cause. C'est cette idée que, en fait, on a tout misé sur le choix de l'entreprise la plus performante dans le monde pour fabriquer telle petite partie d'un objet.
Et c'est fragile.
En partant du principe que la fluidité des échanges était parfaite, totalement assurée, qu'on n'avait plus besoin de stock, que cette entreprise répondrait toujours présent. Et c'est ça aujourd'hui qui est remis en cause. Mais ça, c'était sous la pression, entre guillemets, du consommateur. Puisqu'il faut rappeler que cette mondialisation, elle s'est quand même accompagnée d'une formidable hausse du pouvoir d'achat pour les consommateurs,
c'est un peu le sens de ma question, Emmanuel.
Des pays occidentaux.
Donc, si vous redistribuez ça, est-ce que c'est le consommateur? Est-ce que ça veut dire que, par exemple, si on ne parle que de ça, les entreprises, elles vont acheter leur vis et leur boulon plus près ou à moins d'entreprises? Est-ce qu'elles vont peut-être, rapatrier ça autour de la Méditerranée et ça va coûter plus cher aux consommateurs?
Il y a une vraie réflexion dans les entreprises pour diversifier les sources d'approvisionnement. C'est-à-dire qu'en gros, avoir des routes secours qui soient un peu plus performantes que celles qu'ils ont aujourd'hui. Donc ça, c'est une chose. Deux, c'est sûr que si on relocalise, le consommateur, ça lui coûtera plus cher. Mais ça, c'est des choix qu'il faut assumer. Donc, la réalité, c'est qu'on va sans doute aller vers des formes de relocalisation stratégique un peu déconnectées des seules règles pures de l'économie de marché pour des raisons d'indépendance, pour des raisons de sécurité. Mais après... on va peut-être revenir des usines, oui, mais qui auront dedans...
Des robots.
Bah oui.
Moi, je suis de l'avis de Paul Krugman sur le sujet. C'est-à-dire que Paul Krugman, un éditorialiste américain, prix de la Banque de Suède dans l'économie.
Arrêtez à chaque fois, on perd quelques secondes pour qu'il rectifie.
Mais ça, c'est le gimmick, en fait. Maintenant, c'est le gimmick.
Il nous dit, globalement, on gagne aux échanges internationaux. Il ne faut surtout pas dire que c'est en refermant les économies qu'on va avoir des économies beaucoup plus fortes. Mais, attention, il y a deux problèmes. Territorialement, on perd. C'est-à-dire que même si globalement on gagne à la mondialisation, il y a des territoires qui perdent à la délocalisation. Et donc ça, Krugman, il y a deux ans, il a fait un papier en disant, mais qu'est-ce qu'on a loupé, nous, les économistes? Et on a loupé les effets territoriaux sur l'emploi. Je renvoie à plein d'études de la Banque d'Angleterre qui montrent que quand on a délocalisé dans le textile au début des années 80, dans les régions anglaises qui ont été victimes de ça, aujourd'hui encore, il y a des effets sur l'emploi. Il y a moins d'emplois dans ces régions, des effets structurels. Et on perd fiscalement. Ces multinationales, plus elles se sont organisées au niveau mondial, plus elles ont réussi à échapper aux impôts. Rappelons quand même que la dernière étude du CEPI qui a été publiée par Anne-Laure Delatte, Vincent Vicard, il y a une troisième économiste il y a 15 jours, nous montre que 40 à 45% des flux internationaux financiers sont fictifs pour simplement soit échapper aux impôts, soit échapper aux règles de contrôle de la finance.
Donc je vais vous poser la question plus directement. Christian, si vous me dites, vous, que la mondialisation financière est en chute libre, est-ce que c'est une bonne chose? Qu'avons-nous à y gagner?
Oui,
c'est une perte ou un gain?
Non, je pense que le recul de la finance internationale, la moindre mondialisation de la finance internationale, c'est un véritable gain. C'est une fenêtre qui se referme un peu, qui fait que les grands courants des crises qui viennent d'ailleurs du monde entreront moins chez nous. Donc pour moi, c'est un gain. Attention, ça ne veut pas dire forcément, pour rester maintenant sur le côté productif, relocalisation en France, parce que il y a déjà de la régionalisation. Avant le virus, on avait déjà une organisation moins mondialisée, mais plus régionalisée.
Alors régionale, à l'échelle des continents.
À l'échelle européenne, à l'échelle des continents. Pour nous, en France, les deux tiers des produits intermédiaires, c'est-à-dire ceux qu'on importe pour les rebidouiller avant de les réexporter, les deux tiers venaient déjà du reste de l'Europe. Les deux tiers. Donc on est déjà dans une forme de régionalisation qui va s'accentuer. Et ce que nous dit la CNUSET, qui est la grande conférence, la grande institution internationale qui suit les politiques publiques générales, c'est les politiques publiques de plus en plus restrictives vis-à-vis de l'entrée des acteurs étrangers.
Allez, le mot de la fin, Emmanuel de Chypre.
Alors, il faut aller plus
loin. Pardon, je finis juste. En fait, on va avoir moins de mondialisation, une mondialisation moins libérale, et tout ça, ça va dans le bon sens.
Bon.
Il faut aller plus loin sur les effets de la mondialisation. Il y a des travaux, parce que Christian parlait du travail, etc. Mais aux États-Unis, il y a des études qui ont montré que sur des régions entières, l'impact sur les conditions de vie, la santé, la mortalité, etc., on était allé très loin. Donc, si on croit qu'aujourd'hui, relocaliser, c'est juste, faire tomber sur un territoire une usine comme ça, non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Parce que c'est des écosystèmes, il y a les usines, il y a tous les services qui vont avec, la recherche, etc., les infrastructures pour les salariés, etc. Donc c'est beaucoup plus complexe que ça. La réalité, c'est que si vous voulez faire revenir des usines en France, bah, c'est fondamentalement notre compétitivité qui doit être au niveau. Et là, réfléchir sur tous les sujets d'attractivité, de fiscalité,
de réglementation. Je suis sûr que ça sera à la rentrée, Emmanuel. Sûr. Vous serez là.
Ce sera déjà bien tard.
La planète, merci les débatteurs. La planète comme elle tourne ailleurs. Alors vous savez qu'il y a une élection demain, hein. Non, je parle pas de celle qui va se dérouler en France, mais de celle qui va se dérouler en Pologne. C'est la présidentielle et on y va en Pologne.
Od 5 lat głos Polaków jest najważniejszy. Jestem i chcę być nadal prezydentem polskich spraw. To obywatele decydują, jakiej chcą Polski.
Alors ça, c'est la dernière vidéo de campagne de Duda, l'actuel président qui est candidat à sa réélection. Bonjour Ludovic Piétenu.
Bonjour Alexandra.
Ludovic, vous êtes envoyé spécial de France Inter en Pologne pour suivre ce scrutin. Ce matin, vous êtes à Varsovie. Alors, parmi les débats de cette campagne, il y a cette question, comment le pays peut-il se relever du choc économique causé par la pandémie ?
Oui, la Pologne se prépare à vivre sa première récession depuis 30 ans, mais sa bonne santé économique devrait lui permettre de s'en tirer à bon compte, meilleur élève de la classe européenne. Toutes les prévisions convergent, le PIB devrait chuter d'environ 4% cette année pour remonter d'autant l'an prochain. Fin 2021, cette crise ne serait donc plus qu'un souvenir. Ces derniers mois, l'actuel gouvernement conservateur a distribué 25 milliards d'euros aux entreprises, dont les trois quarts orientés vers les micro-entreprises, très nombreuses en Pologne. De l'argent distribué très vite, le pays voit donc l'avenir avec optimisme et compte profiter des dizaines de milliards du fonds de relance européen pour au passage accélérer sa sortie du charbon, mais aussi, et c'est une conséquence de cette épidémie, il mise sur le retour des usines avec cette accélération, ce mouvement de relocalisation de l'Asie vers l'Europe centrale.
Dont nous parlions il y a quelques instants avec les débatteurs, Ludovic. Une bonne gestion de la crise sanitaire et économique, c'est le genre de choses a priori qui pourrait bénéficier à Duda, le président sortant, qui se présente donc, qui se représente pour un deuxième et dernier mandat de 5 ans. Mais en réalité, non, il est challengé et très fortement par l'actuel maire de Varsovie, un candidat dont les gens vous disent qu'il le compare à Kennedy ou à Macron, c'est ça?
Oui, parce qu'il est jeune, 48 ans, mais en fait, comme l'actuel président sortant, c'est juste qu'il paraît plus jeune. Au-delà des apparences, Rafał Trzaskowski, c'est son nom, est surtout beaucoup plus libéral. Et la différence majeure du point de vue des autres pays membres de l'Union, c'est un pro-européen. En matière économique, on peut regarder les programmes, mais ça n'a pas vraiment de sens, puisque le président ici, on peut rappeler son rôle, n'intervient pas sur l'économie et le social. Il s'occupe de politique étrangère et de défense. Si Trzaskowski est élu, ce sera une sorte de cohabitation avec le gouvernement du PiS qui a été reconduit l'an dernier aux élections. Il aura un droit de veto, il pourra bloquer des projets ou les forcer à réorienter certaines lignes budgétaires, comme celle allouée à la télévision publique, devenue un véritable organe de propagande du PiS et dont il veut que cet argent aille au système de santé polonais qu'il veut faire passer très vite d'ici l'an prochain de 4 à 6% du PIB. Un rôle de contre-pouvoir donc qui peut aussi rassurer les investisseurs étrangers. Ça va améliorer l'image du pays, m'a-t-on dit ici, avec cette impression, ces dernières années, qu'il se recroquevillait, qu'il se refermait un peu sur lui-même dans cette ambiance populiste avec un esprit nationaliste qui a pu conduire parfois à certains comportements en matière économique, certains comportements protectionnistes.
Ludovic Piétenu avec nous depuis Varsovie. Merci à vous, merci aux débatteurs, Christian Chavagneux, Emmanuel Le Chypre. À venir dans 10 minutes, notre invité, c'est le PDG de SEB, Thierry de la Tour d'Arthez, le roi de la friteuse sans huile, ou presque, qui se lance dans le vélo Made in France. Alors justement, parlons-en du boom du vélo. C'est une conséquence aussi de la crise sanitaire. On a vu des Français se ruer dans les magasins de cycles. Et ce qui est nouveau, c'est que des entreprises commencent à s'intéresser au vélo, voire à l'intégrer au boulot.
Alors là, on est à Paris et on se trouve avec Philippe, Philippe Gentil, l'ébéniste à vélo. Et c'est écrit sur votre t-shirt, Philippe.
C'est ça.
Vous êtes micro-entrepreneur, enfin vous travaillez tout seul.
Voilà, je suis micro-entrepreneur, je suis artisan d'art et je travaille tout seul en effet. Ouais.
Et vous travaillez à vélo.
Et je travaille avec un vélo cargo.
Un vélo électrique et puis devant là, vous avez une sorte de grand coffre.
Voilà, c'est ma camionnette en fait, ce vélo. Donc il y a le côté cargo qui permet en effet d'embarquer sur mon vélo tout mon matériel, tous mes outils et de porter jusqu'à au maximum là devant 150 kilos, ce qui est déjà énorme.
Ah oui, quand même.
Et puis ce vélo, en plus, qui est un vélo français, ça a de l'importance pour moi parce que je suis très fabriqué en France, justement, fabriqué le local. Voilà, ce vélo-là, il est fait pour ça. Il est fait pour transporter les outils et aussi les enfants, moi. Parce que j'en ai trois, donc il faut que je les transporte.
Ah d'accord.
Mais voilà, les gens qui déposent leurs enfants en voiture à l'école le matin, moi je les dépose à vélo et puis après je vais travailler. Je passe charger mon matériel et puis je vais chez mes clients.
Et donc là, on va aller chez l'un de vos clients.
Et là, on va aller chez un de mes clients, voilà.
Donc, je monte là, voilà. Dans le coffre, en fait. Enfin, le coffre.
Vous mettez
debout ou...
Vous mettez debout et puis vous asseoir là.
D'accord. Hop là, c'est parti.
Et voilà du reportage, de la prise de risque. On a une reporter à l'avant du vélo à la place des outils. Bonjour Anaëlle Verzon.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Le marché du vélo, on en a déjà parlé hein, dans le Mag'Éco. Il va bien, plus de 2,5 millions d'engins vendus par an. Tout ça est tiré par le vélo électrique. Avec le virus et les municipales, la petite reine et les pistes cyclables sont devenus un sujet sanitaire et politique. Et ce que vous avez trouvé, vous Anaëlle, dans votre enquête, c'est que le sujet pourrait bien devenir économique. On a des entreprises qui s'y mettent aussi.
Oui, c'est tout neuf. Ce n'est pas un raz-de-marée, mais avec le déconfinement, on voit des entreprises, petites et grandes, qui commencent à s'y intéresser.
Et d'ailleurs, Philippe l'ébéniste, qui vous emmène chez son client, il s'est lancé, lui, avant la crise sanitaire, hein, Anaëlle, mais il avait déjà un raisonnement économique.
On vient d'arriver dans le 10e arrondissement de Paris, et on est arrivé chez l'un de vos clients. C'est un client qui fait dans le vegan, si j'ai bien compris.
C'est ça, une marque de maroquinerie. Vegan.
Ah oui. Et qu'est-ce que vous faites pour eux ?
Alors pour eux, j'ai conçu une ligne de meubles mobiles pour leur salon et leur pop-up store. C'est là.
Bonjour, bonjour. Frédéric.
Salut Philippe,
ça va ? Ça va bien toi ?
Bonjour.
Bonjour.
Ah sublime !
Ah voilà les sacs. Voilà.
Vous n'avez pas encore vu en fait ?
Ben non, c'est une collection en plus qu'ils ont fait avec Pamela Anderson.
Pamela Anderson ?
Ben oui, parce qu'elle est végane, elle prône, bon moi je ne suis pas végane, mais Frédéric Lay et puis cette marque, c'est du cuir, regardez, c'est du cuir de pomme, c'est de la pomme ça.
Frédéric,
oui.
Le fait que Philippe soit à vélo, est-ce que ça joue pour vous ?
Ouais, ça a joué pour nous. Mais ce qui est intéressant dans le déplacement à vélo, c'est pas le fait que simplement qu'il se déplace, c'est aussi les valeurs qu'il défend. Et pour nous, c'était important d'avoir des fournisseurs qui ont la même éthique que nous.
Et Philippe, est-ce que vous gagnez bien votre vie ? Est-ce que ça marche ?
Je gagne bien ma vie et j'ai pas envie de la gagner trop bien. J'ai bien gagné ma vie par le passé, et là j'ai envie d'en vivre, mais surtout j'ai envie d'avoir du temps pour moi. Et ça c'est quelque chose de très très important, et le vélo me permet ça. Parce que le vélo me fait gagner un temps considérable, j'ai le temps de m'arrêter sur les voies sur berge à Paris, boire mon café le matin.
Et est-ce que les autres travailleurs, on va dire, ou les autres entrepreneurs à vélo que vous connaissez gagnent leur vie également ? Un plombier par exemple, est-ce qu'il s'en sort bien ? Mieux qu'un plombier classique, on va dire ?
Alors, le plombier à vélo, c'est un des exemples par excellence. Parce que le plombier à vélo, il évite tous les écueils de la profession. D'un métier d'urgence, comme ça, un artisan qui va réparer une fuite. Il n'a pas à se garer, il n'a pas à chercher de place, il n'a pas de bouchon. Il est très vite chez son client. Et donc, il réalise, s'il veut, hein, travailler beaucoup, il fait le double d'interventions par jour.
Le double d'interventions par rapport à un plombier classique ?
Un plombier en voiture à Paris qui doit garer sa camionnette pour aller réparer une fuite, le temps qu'il y aille, qu'il se gare, qui décharge son matériel, qui répare la fuite, ensuite il repart, bah, il peut faire, allez, 4-5 clients par jour. Là où un plombier à vélo, s'il travaille bien, peut en faire 8-10. Donc il n'y a pas photo.
Bon, Philippe l'ébéniste, il a la conviction chevillée au corps, peut-être un petit côté bobo aussi. Anaëlle Verzo, est-ce que ça peut intéresser, le vélo, ça peut intéresser d'autres profils de chefs d'entreprise ?
Ah mais oui Alexandra, ça peut même intéresser les banquiers. Chez Morgan Stanley par exemple, c'est le coronavirus qui leur a mis le pied sur la pédale.
Bon bah alors on suit, on passe de l'ébénisterie à la banque d'affaires. Nous sommes dans les beaux quartiers de Paris, juste à côté du parc Monceau.
Ah d'accord, voilà donc les vélos. Grégory Fer, donc, vous avez mis en place des vélos de fonction. Et donc là, on se trouve dans un local à vélo, à côté de vos bureaux. Et on se trouve devant l'un de ces vélos électriques. Hein. C'est des vélos à assistance électrique. Il y en a combien ?
On a 45 employés qui ont décidé de souscrire à l'offre sur les un peu plus de 130 employés qu'il y a à Paris.
Donc vous êtes locataire de ces vélos ou vous les avez achetés ?
En fait, c'est une location longue durée, exactement sur le même type de fonctionnement qu'une voiture de fonction. Donc c'est sur 36 mois avec une option d'acquisition à la fin de cette location.
Ah d'accord, donc à la fin, ça vous revient ?
Exactement.
Et l'employé qui l'utilise, lui, est-ce qu'il doit payer ou pas ?
Oui, c'est un fonctionnement à 70% financé par l'entreprise et 30% par l'employé. Donc c'est en gros une somme aux alentours de 35-36 euros par mois par employé.
Et pour l'employeur ?
À peu près 80-90 euros.
Par vélo ?
Par vélo.
Et par mois ?
Et exactement. Et avec l'avantage pour l'employeur de bénéficier d'une réduction fiscale à hauteur de 25%.
25% de réduction hein, sur...
Oui, voilà, c'est une réduction d'impôt à hauteur de 25% de la part financée par l'entreprise. C'est pas mal et c'est intéressant, effectivement, et a priori, ça rencontre un certain succès, puisque il y a une demande qui explose depuis la crise sanitaire et qu'effectivement, j'imagine que cet aspect fiscal n'y est pas étranger.
Et quels sont les autres intérêts pour vous, en tant qu'employeur ?
Ça permet à la fois à nos employés d'avoir une forme d'activité physique, de pouvoir éventuellement gagner du temps.
C'est win-win un peu, c'est gagnant-gagnant.
Exactement.
Et encore un intérêt, Alexandra, ça revient aussi beaucoup moins cher pour ces banquiers d'affaires qui habituellement vont à leur rendez-vous en taxi.
Donc tout ça commence un peu à se mettre en place. Annel, on comprend qu'il y a désormais des sociétés qui louent à des entreprises des flottes de vélos de fonction.
Oui, ce sont des petites entreprises, des start-up. Il y en a 5 en France qui toutes réunies louent entre 1000 et 2000 vélos aux entreprises. Alors la plus ancienne de ces start-up, Zenride, date de 2018. Vous voyez, c'est quand même récent. Et toutes les autres, elles datent de 2019.
Donc cette Zenride, elle fournit 300 vélos à une trentaine d'entreprises. Vous êtes allé rencontrer son tout jeune patron, Antoine Repussard.
Les appels entrants ont commencé à arriver de manière très nombreuse depuis 15 jours avant le déconfinement, donc depuis fin avril. C'est une hausse qui est plus de 500%.
Ah oui, d'accord. Donc au total, vous livrez combien d'entreprises et plutôt quel type d'entreprise ? C'est plutôt des grosses entreprises, des moyennes, des petites ?
Alors aujourd'hui, on travaille avec une trentaine de clients. Donc ça va de l'indépendant au groupe du CAC 40. Depuis le déconfinement, on a signé avec Veolia et donc on déploie une flotte de vélos pour le groupe Veolia.
J'ai lu qu'il y avait aussi Havas Sport, Microsoft aussi.
Exactement. J'ai eu 3 rendez-vous avec des groupes du CAC 40 aujourd'hui.
D'accord. Et alors vous, du coup, est-ce que votre start-up, elle marche bien ? Vous êtes rentable ou pas ?
Alors aujourd'hui, on n'est pas rentable, on est encore en croissance. Mais oui, effectivement, ça marche très bien.
Et qui vous finance ?
C'est des acteurs bancaires. Nous, c'est une filiale de la Société Générale. Ils financent les clients de Zenride, c'est-à-dire qu'ils financent juste les vélos, les actifs. Ensuite, pour le développement de Zenride, on s'est financé auprès de Business Angel qui nous permet d'employer des collaborateurs et d'atteindre la rentabilité financière.
Annaëlle, le vélo au boulot, là, le vélo taf, est-ce qu'on a des chiffres ? Qu'est-ce que ça représente ?
Eh bien, écoutez, Alexandra, je vais vous citer 2 études. Il y a celle de l'INSEE, qui date de 2017, et qui nous disait qu'en 2015, seulement 2% des actifs ayant un emploi vont travailler à vélo.
Ah oui, ça fait pas beaucoup, hein ?
Non. Et puis la toute dernière, l'étude de l'ADEME, l'Agence de l'environnement.
Elle s'appelle cette étude « Impact économique et potentiel de développement des usages du vélo ». L'ingénieur Élodie Trochesec a travaillé sur cette étude. Elle s'est intéressée aux entreprises.
Alors les entreprises ont un grand rôle à jouer. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant sur la cible employeur, c'est que les avantages, les bénéfices à favoriser le vélo auprès de ses collaborateurs sont vraiment multiples, sont vraiment importants en termes de réduction de l'absentéisme, d'augmentation de la productivité, d'augmentation de la qualité de vie au travail d'ailleurs, on l'a vu récemment, de la ponctualité.
Après, il y a quand même des questions qui se posent. Par exemple, où garer son vélo ? Moi, par exemple, je me suis déjà fait voler mon vélo devant Radio France. Bon, comment est-ce qu'on peut faire pour convaincre une entreprise d'avoir, par exemple, un garage à vélo ? C'est un investissement aussi.
Vous avez tout à fait raison quand vous parlez du stationnement. Pour que le vélo se développe, on a vraiment besoin d'un écosystème complet, à l'image de ce qui se fait finalement pour la voiture. Autrement dit, il nous faut des aménagements pour rouler, il faut du stationnement sécurisé pour pouvoir garer son vélo, il faut pouvoir faire réparer son vélo, il faut pouvoir apprendre à faire du vélo. Et tout ceci, ça se construit avec tous les acteurs économiques. Et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment en France. Et s'il manque un seul maillon de cet écosystème, ben on n'avance pas aussi vite que ce qu'on pourrait. Donc je vous rejoins tout à fait, le stationnement, c'est un élément indispensable du développement du vélo, notamment dans le domicile-travail. Et on a absolument besoin que les employeurs fassent cet effort qui sera rentable d'investir dans le vélo et dans toutes ses composantes.
Alors justement, Élodie Trochesec, vous écrivez notamment que la pratique du vélo a profondément changé ces 10 dernières années. avec notamment le retour du vélo dans les grandes villes. À Paris, par exemple, on a observé une hausse de plus 30% de l'usage du vélo entre 2010 et 2018, plus 50% à Bordeaux pour la même période. Vous soulignez également qu'il y a une double fracture, une fracture sociale et territoriale. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce que sont ces fractures sociales et territoriales ?
Le vélo est en train, en effet, depuis une dizaine d'années, de faire son grand retour dans les grandes villes. Il y est très visible, on en parle beaucoup, et c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. À savoir que pendant que le vélo, finalement, augmente en présence, augmente en utilisation dans le centre des grandes villes, il baisse partout ailleurs. L'intérêt de cette étude, c'est qu'on a compilé un grand nombre de données sur les 30 dernières années, et on s'est aperçu que, finalement, il y a 30 ans, c'était dans le milieu rural qu'on faisait le plus de vélo. Et aujourd'hui, finalement, c'est en ville qu'on fait le plus de vélo et la pratique dans le milieu rural, dans les périphéries, dans les campagnes, s'est écroulée. Et en parallèle, on a également une fracture sociale avec un vélo qui augmente fortement chez les cadres, chez les CSP+, et puis une pratique qui baisse chez les jeunes, qui baisse également chez les personnes âgées, avec là aussi des enjeux de santé, d'autonomie qui doivent nous alerter. Et puis une baisse très forte chez les ouvriers, qui il y a encore quelques années étaient les principaux usagers du vélo. Donc il y a toute une révolution à mener en termes de représentation sociale pour donner envie de faire du vélo à toutes les catégories socio-professionnelles et pas seulement, entre guillemets, aux bobos parisiens.
L'engouement pour le vélo va-t-il toucher aussi les entreprises ? C'était le reportage d'Anaël Verzo. Merci Anaël.
On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd sur France Inter.
Et pour poursuivre notre réflexion, le PDG du groupe SEB est l'invité du Mageco. Bonjour et bienvenue Thierry de la Tour d'Arthèse.
Bonjour.
Seb, en réalité, c'est une trentaine de marques, hein, Rowenta, Tefal, Moulinex, Krups. Vous êtes le géant français du petit électroménager que vous vendez, je crois, dans 170 pays.
Oui.
Et maintenant, vous vous lancez dans la fabrication de vélos électriques avec la start-up de Marc Simoncini, le fondateur de Mythic. J'imagine que si vous vous investissez dans la production, c'est que vous y croyez, mais vous y croyez jusqu'où à ce marché du vélo ?
Ah ben je pense qu'on est devant un phénomène qui ne sera pas passager, mais au contraire pérenne. Et donc il nous a paru effectivement nécessaire de nous y intéresser. Vous savez, notre mission depuis 163 ans, on la résume en disant que nous sommes là pour simplifier et embellir la vie quotidienne des consommateurs du monde entier. Donc cela fait des années et des années qu'on essaie de regarder comment évolue la consommation, comment évolue le mode de vie de nos concitoyens et de leur apporter de nouvelles solutions. Donc ça a été dans certaines années des friteuses sans odeur, puis après plus récemment quand les soucis de nutrition sont apparus, la friteuse sans huile.
Oui.
Aujourd'hui on voit bien depuis quelques années que la mobilité est un phénomène qui apparaît de tous les jours. On a commencé par les mugs ou les thermos. Vous voyez, aujourd'hui, tous les jeunes ont tous un thermos à la main. Donc, on a, nous aussi, lancé dans ce métier. On a racheté une société en Allemagne.
Oui.
Et là, on voit bien avec les vélos que c'est pas un phénomène passager. Les gens ont envie d'aller à leur bureau, faire leurs courses en vélo parce qu'on peut plus simplement plus circuler dans les grandes villes.
Tirer de la Tour d'Arthèse.
Ça va durer.
Mais là, ce vélo, il va quand même, là, on finissait sur ce sourire, hein. C'est les vélos, pour l'instant, le vélo et le travail, c'est plutôt un phénomène bobo. Le vôtre, il va quand même coûter 2700 euros. Mais je vais vous parler production, hein. Ça sera donc du haut de gamme. Est-ce que, vous le dites souvent, c'est la seule façon pour vous de fabriquer en France, c'est de faire du haut de gamme?
Oui. Je crois qu'il faut, on parle beaucoup de rapatriement de production en Europe ou de maintien de production en Europe. Je crois qu'il faut être très clair. En Europe, on ne peut pas fabriquer des produits d'entrée de gamme, ce n'est plus possible, nos coûts salariaux ne le permettent pas, donc il faut pas essayer de se battre sur des combats perdus d'avance, mais il faut au contraire se battre pour fabriquer des produits à forte valeur ajoutée. Le vélo dont nous parlons est un vélo compliqué, ça demande une très grande technicité, ça demande vraiment un vrai savoir-faire, et nous avons ce savoir-faire dans toutes nos usines françaises, donc je crois que il faut se concentrer sur des produits où on a vraiment besoin de savoir-faire, et c'est ce que nous faisons avec Marc Simoncini, donc avec ces vélos qui seront fabriqués dans une de nos usines, en Bourgogne, à Is-sur-Tille, une usine que nous avons depuis très très longtemps, qui a fait beaucoup d'autres produits, notamment des friteuses, mais dans lequel on a, je crois, des salariés extrêmement compétents, et qui ont relevé le défi avec enthousiasme, donc oui, on peut fabriquer en France, mais il ne faut pas vouloir fabriquer n'importe quoi.
Il me semble que dans le cas du vélo, en tout cas, on a encore des producteurs français parce que l'Europe impose depuis une vingtaine d'années une taxe anti-dumping, hein, une taxe de je crois, 47%. C'est le cas. C'est l'Europe qui protège ses producteurs, là.
Oui, c'est l'Europe un peu, mais vous trouvez quand même des vélos à des prix qui viennent de Chine à des prix bien inférieurs. Donc, il y aura, dans ce segment du vélo, comme dans tous les autres, nécessité d'avoir des produits comme on trouve aujourd'hui des vélos à 5000 euros et ça continuera et on trouve aussi des vélos à 700 euros et ça perdurera donc nous sommes au bon milieu vers 2700 euros, c'est un produit effectivement, je vous le disais, qui est très compliqué, qui est bourré d'électronique et qui est un vrai Apple si on peut dire, donc qui est beaucoup plus sécure contre le vol, contre les accidents, donc il a plein de choses et ça se paye bien sûr. C'est pour ça qu'on pourra le fabriquer en France.
Thierry de la Tour d'Arthez, vous êtes un industriel mondial. Quand vous entendez aujourd'hui l'Europe qui envoie un message à Pékin, qui dit l'ère de l'Europe naïve est révolue, ça c'est un avertissement pour vous qui êtes au cœur de la mondialisation. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'espoir? C'est de l'inquiétude? Comment vous le prenez?
Bon, pour être tout à fait honnête, je pense que pendant des années, l'Europe, et notamment la Commission européenne, a eu de cesse que d'empêcher les grands groupes européens de se former. Beaucoup de fusions qui étaient prévues en Europe n'ont pas eu lieu parce que la Commission les jugeait anticoncurrentielles, parce qu'on avait l'obsession de protéger les consommateurs, et à force de faire cela, on a empêché les grands groupes européens d'exister. Donc il est temps, effectivement, que nous remettions un petit peu l'église au centre du village et de dire que nous devons avoir une industrie compétitive. Pour ça, il faut qu'elle grandisse, qu'elle puisse fusionner et qu'elle soit évidemment dans un lien de réciprocité avec la Chine. La Chine a depuis longtemps dit, mais de façon officielle, qu'elle se réservait certains secteurs. Elle le fait. Je ne vois pas pourquoi nous ne ferions pas la même chose. Donc je trouve que c'est tout à fait normal.
Dernière question. Une question sur la reprise, la consommation qui reprend. Vous avez, et plus particulièrement sur l'emploi. Comment ça va chez Seb en France? Je crois qu'il y a 11 usines, 6000 salariés. Ça va se passer comment dans les prochains mois? On a tous cette idée de licenciement dans certains secteurs. Comment ça va aller chez vous?
Écoutez, bon, nous, la crise du coronavirus, on l'a vécu depuis mi-janvier, puisque nous sommes très gros en Chine, vous le savez. Donc, on l'a vu arriver, et je dirais qu'on y est encore, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, la crise est loin d'être finie. Je note qu'au Brésil, par exemple, elle est encore extrêmement violente, et que nos usines sont à peine réouvertes, mais qu'il n'y a pas de consommation, parce que le virus est encore très fort. Donc, il faut bien sûr rester très prudent. Ce que je dirais, c'est que dans tous les pays où le déconfinement a eu lieu, on voit le retour de la consommation, c'est la bonne nouvelle, c'est vrai en Chine, mais c'est vrai en Europe. Donc je pense que nous...
C'est vrai en France? En France, c'est particulier.
C'est tout à fait le cas en France, absolument. Les consommateurs retournent dans les magasins, achètent évidemment plus online, donc on voit une part plus importante des ventes en ligne par rapport à avant la crise, mais nous espérons que la consommation continuera d'être bonne et de s'améliorer. Alors évidemment, 2020 sera pour tous les industriels une année évidemment très difficile. En ce qui nous concerne, nous avons, je pense, les reins suffisamment solides pour traverser la crise et continuer notre développement.
Ce que j'entends donc, c'est que le chiffre d'affaires, c'est ce que vous êtes en train de me dire, et le bénéfice surtout, ça va se voir. Le coronavirus, ça ne sera pas du tout indolore. Mais sur l'emploi, vous ne prévoyez rien de... Est-ce que vous allez recruter?
Bah écoutez, on verra. Mais pour le moment, en tout cas, nous n'avons pas arrêté... nous n'avons pas envisagé, nous n'envisageons pas de mesures de restructuration ou de réduction d'effectifs. Donc on sera évidemment très attaché à suivre nos coûts et à limiter de façon à passer la crise le mieux possible. Mais j'espère que nous pourrons dire dans quelques mois que c'est une crise de plus que nous avons traversée et que nous continuons notre progression.
Depuis 1857.
Depuis 1857.
Merci Thierry de la Tour d'Arthez, le PDG de Seb, d'avoir été sur France Inter. Merci à vous.
Et on va continuer sur le thème de l'emploi, bien sûr, avec vous, Sandrine Foulon. La montée du chômage inquiète beaucoup nos auditeurs. C'est le cas de Monique, dont le fils va entrer sur le marché du travail avec un master. Comment inciter vraiment efficacement les entreprises à recruter tous ces jeunes? Monique a le sentiment qu'il y a déjà beaucoup de politiques qui ont été tentées par le passé.
C'est vrai, Monique, on pourrait adapter la célèbre phrase de François Mitterrand contre le chômage et surtout contre le chômage des jeunes. On a tout essayé, avec plus ou moins de bonheur. D'ailleurs, vous vous souvenez, il y a eu les tentatives de CPE, le contrat première embauche, le CNE, le contrat nouvelles embauches, les ersatz de SMIC jeunes. Il y a eu et il y aura encore des aides publiques pour les apprentis. En ce moment, le gouvernement planche avec les partenaires sociaux sur un dispositif d'exonération de cotisations sociales pour les entreprises qui embaucheraient des jeunes de moins de 30 ans. Ça aussi, on l'a déjà expérimenté. La mesure qui ressemble le plus à ça, c'était le contrat jeune de François Fillon en 2002. Les directions qui recrutaient des salariés de moins de 22 ans payaient zéro cotisation les deux premières années et 50% la troisième année. Le résultat, c'est qu'il y a eu un énorme effet d'aubaine. Les employeurs qui, de toute façon, avaient l'intention d'intégrer un jeune, l'ont fait, mais avec en bonus les aides de l'État. Ça a coûté cher pour un bilan très peu concluant.
Alors, c'est toujours intéressant, ces expériences, de revenir dans le passé, mais Sandrine, 2020, ça n'est pas 2002, et là, on a quand même un gros choc sur le chômage des jeunes qui nous attend, comme le dit Monique.
Oui, vous l'avez rappelé, Alexandra, on va sûrement atteindre des sommets, et une politique d'emploi efficace, c'est souvent une question de bon timing contre le chômage. On a tout essayé, mais parfois au mauvais moment. C'est ce que dit souvent l'économiste Éric Ayer. Défiscaliser des heures sup en période de croissance, ça peut avoir un intérêt quand il y a du boulot, mais c'est destructeur d'emploi pendant les phases de récession. Pour l'emploi des jeunes, on ne fera jamais boire un âne qui n'a pas soif, mais proposer cette exonération de cotisations aux entreprises, en ce moment, ça pourrait les inciter à franchir le cap. Ensuite, la jeunesse n'est qu'un mot, ça c'est Bourdieu qui l'a dit et ça reste très vrai. Vous avez raison de vous inquiéter, Monique, mais avec un master, votre fils part avec davantage de chances qu'un jeune sans diplôme. Le danger d'un dispositif ciblé sur une catégorie d'âge, c'est qu'il peut aussi en pénaliser une autre, les plus vieux en l'occurrence. Des mesures pour l'emploi, il en faudra beaucoup et pour tout le monde si on veut éviter que les entreprises fassent un tri entre ceux qui coûtent cher ou pas et ceux qui, en période d'épidémie, seront susceptibles d'être en arrêt maladie ou pas.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot.